cette logique de marketing électoral de s'approcher de notre héros. Alors, vous le baptisez Éco-Tartuffe. C'est vous qui avez inventé ce concept d'Éco-Tartuffe.
Pourquoi Éco-Tartuffe ? Parce que c'est vrai que c'est un peu paradoxal de voir des personnes qui ont mené grand train, ont été des représentants de la classe dirigeante, qui ont commis un peu tous les excès qui sont permis dans cette société de consommation. On pense par exemple à Yannatus Bertrand, qui a été pendant 10 ans participant au photographe officiel du Paris-Dakar, qui aujourd'hui eh bien, se met à faire la leçon écolo à l'ensemble des Français. Donc, évidemment, on ne veut pas rester dans des déterminismes, on souhaite que tout le monde évolue, y compris quand on a commis de tels excès. Mais le problème, c'est que ces gens souvent continuent à mener grand train, tout en prêchant la révolution du brossage de dents.
C'est quoi la révolution du brossage de dents ?
Là, c'est penser qu'on pourra transformer la société à travers des actes individuels qui ont leur importance. Bien évidemment, les changements de comportement des individus sont très importants, mais nous ne pouvons pas nous affranchir d'une réflexion qui est une réflexion plus vaste, qui est une réflexion politique, démocratique, sur les choix de société. Donc, on ne pourra pas transformer complètement la société uniquement à travers des comportements individuels, bien évidemment.
Et Nicolas Hulot fait partie des Éco-Tartuffes.
Nicolas Hulot, bien sûr. Un petit clip.
Je suis en train de perdre des auditeurs, là. Les auditeurs s'en vont, là. Allons-y, pour ceux qui restent, il en restera peut-être quelques-uns à la fin.
On a vu Nicolas Hulot sur TF1 faire de l'avion de chasse. Et comme le disait Stéphane Guillon, en 5 minutes, il a consommé et mis autant de gaz carbonique qu'un Français moyen, toute sa famille, pendant 5 ans dans sa
maison. Il évoque tout le temps ses contradictions, il évoque le salaire faramineux que lui verse chaque mois TF1. Il dit oui, je suis un garçon plein de contradictions. Mon film est non pas sponsorisé, c'est du mécénat. Hein. Ne confondez pas, n'allez pas confondre. Parce que mécène, c'est les Médicis. Hein. Mécène, c'est les Médicis, c'est-à-dire ceux qui soutiennent les arts et la civilisation. Donc, nuance. Et il le dit, ça. Hein, il ne se cache pas de tout ça. Donc, il vit des contradictions, comme nous tous et comme vous.
Bien sûr, on est tous dans des contradictions, évidemment, notamment par rapport à la problématique écologique.
Je suis sûr qu'ici, si je cherche, il y a des financements cultes. Ah, on va chercher.
Ça va être dur à trouver.
Il faut l'instant d'une perspective plus large et comprendre la rhétorique que nous sert Nicolas Hulot, qui est très souvent une rhétorique de la soumission, qui nous dit, voilà, aujourd'hui, il ne faut plus faire dissensus, il ne faut plus s'inscrire comme contre-pouvoir, aujourd'hui, il faut faire alliance avec ces grandes entreprises. Et à côté de ça, il va extrémiser les gens qui, comme nous, eh bien, voulons bâtir des contre-pouvoirs indépendants, qui vont avoir une attitude véritablement démocratique. Il va dire, voilà, il faut changer le système de l'intérieur, mais en disant ça, il dupe ses contemporains. Pourquoi ? Parce que quand il pense de l'intérieur, il ne pense pas à l'intérieur de la démocratie. Il pense à l'intérieur des firmes multinationales. Et voilà, et il va renvoyer ceux qui sont dans une véritable position de contre-pouvoir, dans le purisme, dans l'extrémisme, tout le discours voilà, qu'on nous resserre à longueur de journée.
Le syndrome du Titanic, un film en salle. Demain, un livre qui porte le même titre.
France Inter.
C'est une critique radicale. Comment est-ce qu'on peut le dire du capitalisme?
Moi, je ne le vois pas forcément comme ça. Curieusement, certains l'entendent comme ça.
6 octobre 2009.
C'est la situation dans laquelle on est, le contexte qui est en train de se radicaliser. Parce que les crises se sont combinées. Elles se nourrissent les unes les autres. La crise écologique aggrave la crise sociale, creuse les inégalités. La crise économique, la crise financière, tout ça est venu de se confondre et probablement mettre au grand jour qu'on a une crise quasiment systémique. Alors, il ne faut pas s'en effrayer. Le modèle dans lequel on a été a eu ses vertus, tout n'est pas acheté.
Nicolas Hulot dit, certes, il y a peut-être des choses à revoir dans le capitalisme, mais dans le capitalisme, tout n'est pas mauvais. Et sûrement, dans ce qu'il considère comme pas tout mauvais, il y a les 30 000 euros que lui verse TF1 tous les mois. Donc, il a une position très nuancée sur le capitalisme. C'est-à-dire, d'un côté, il va piller le discours de la décroissance, le discours de l'antiproductivisme. Par exemple, il reprend complètement tout le discours sur les limites, qui est essentiel, de dire l'homme, pour s'épanouir, comme personne et comme société, a un besoin impératif d'intégrer cette notion de limite.
Chacun peut comprendre qu'à partir du moment où on n'est pas dans un monde qui s'étend au fur et à mesure de notre puissance et de la multiplication de nos besoins, il va falloir se fixer des limites.
C'est pas entièrement nouveau dans l'histoire des idées, et même de la politique. L'idée qu'il faut se limiter, c'est pas entièrement nouveau.
Rien de nouveau, je dirais, c'est aussi vieux que l'homme. Les philosophes grecs n'avaient de cesse d'appeler l'homme à la mesure. Pour les Grecs, le péché majeur était l'hubris, la démesure. Donc il va reprendre ce discours, mais par contre, il va écarter bien soigneusement tout ce qui est discours réellement anticapitaliste. Pourquoi ? Évidemment, parce que ça dérange fondamentalement sa structuration économique, la structuration économique de son business. Ça, il ne peut pas le dire. S'il veut garder ses sponsors, s'il veut garder